Le goût, c'est pas dans l'assiette, c'est dans la tête.
France Inter et la Massif vous proposent Les Secrets du Goût, une conférence interactive animée par François-Régis Gaudry.
En partenariat avec la Massif. La Massif, c'est vous.
Bonjour à toutes et tous. C'était le 5 avril dernier, en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, et dans plus de 150 salles de cinéma en France, le premier événement du cycle de l'assiette à la planète sur le thème « Les secrets du goût ». Une conférence en compagnie de Gabriel Lépouzé, docteur en neurosciences, chercheur dans l'Institut Perception et Mémoire de l'Institut Pasteur, la chef doublement étoilée Stéphanie Lequelec et Jérôme Gagnez, chroniqueur vin dont va déguster. Je plongeais la main dans le sac. Je détachais précautionneusement une chouquette de ses congénères, je la portais religieusement à ma bouche et je l'engloutissais en fermant les yeux. On a beaucoup écrit sur la première bouchée, la deuxième et la troisième. On a dit beaucoup de choses justes à ce sujet. Toutes sont vraies, mais elles n'atteignent pas, et de loin, l'ineffable de cette sensation-là, de l'effleurement puis du broyage de la pâte humide dans une bouche devenue orgasmique. La chouquette adhérait aux muqueuses les plus intimes de mon palais, sa mollesse sensuelle épousait mes joues, son élasticité indécente la compactait immédiatement en une pâte homogène et onctueuse que la douceur du sucre rehaussait d'une pointe de perfection. C'est par cette petite mise en bouche littéraire que je vous souhaite, cher public, la bienvenue dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, ainsi que dans les 154 cinémas qui retransmettent en direct cette soirée exceptionnelle. Bonsoir à toutes et tous. Vous avez peut-être reconnu le texte que je vous lisais. C'est le roman de Muriel Barbery, paru en 2000. Un roman que j'ai personnellement beaucoup apprécié, et pour cause. Il raconte le destin assez incroyable d'un critique gastronomique sur son lit de mort qui fait l'effort de se remémorer le choc gustatif, la sensation forte d'une chouquette dégustée bien des années auparavant. C'est en quelque sorte une madeleine de Proust des temps modernes. Et ce texte, évidemment, m'a interpellé parce qu'il montre comment manger, qui est finalement un acte banal, que l'on commet au moins 3 fois par jour, peut devenir, pour peu qu'on y prête un peu attention, un véritable festival, une expérience multisensorielle. Et ce texte montre aussi comment un objet palpable aussi ordinaire qu'une chouquette, peut-être que certains d'entre vous sont abonnés à la chouquette du matin dans la boulangerie du coin de la rue, eh bien comment cet objet très palpable, familier, peut devenir un monument d'émotion dans le fort intérieur de celui qui l'a dégusté. Je suis sûr que dans votre fort intérieur, chez chacun d'entre vous, il y a forcément une madeleine ou une chouquette, et c'est peut-être l'heure de se poser la question de savoir ce qui s'est passé. Par quel mouvement mystérieux le corps a interagi avec votre cerveau? Est-ce que cette chouquette, elle relève de la sensation physique ou bien de l'émotion cérébrale? C'est quelques-unes précisément des questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir avec celui que j'accueille tout de suite, qui va être notre invité fil rouge. C'est Gabriel Lépouzé. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement.
Bonjour à tous. Bonjour François-Régis.
Ça va? Il est jeune, si tant est qu'on puisse être jeune à l'approche des 40 ans. Il est brillant, il est neurobiologiste, il est même docteur en neurosciences, attaché à l'unité perception et mémoire de l'Institut Pasteur. Mais ce qui le rend peut-être le plus utile et le plus séduisant ce soir, c'est que c'est un grand gastronome, un amateur de vin. C'est d'ailleurs ce qui a été, ce qui a constitué le socle de notre amitié. Et on va ce soir faire vivre à notre public du Studio 104, ainsi que toutes les salles de cinéma qui nous suivent dans toute la France, une expérience immersive. On va essayer de se poser les bonnes questions. Bon, une soirée nourrissante, à la fois ludique, penchée sur les savoirs et les saveurs.
Nourrissante dans le gobelet, mais nourrissante dans l'esprit. Vous parliez d'une chouquette tout à l'heure. Comprendre d'où vient cette chouquette et où est-ce qu'elle se projette. Effectivement, la chouquette, elle est en particulier dans la tête. Dans ce texte. Elle est dans la tête parce que c'est là que naît la perception, c'est dans la tête que naît la mémoire aussi de cette chouquette, c'est là que naît l'émotion, C'est là que naît le langage aussi, c'est là que naît l'action de reprendre une deuxième chouquette, une troisième, et encore. Donc, le cerveau, c'est finalement notre outil de dégustation. Le cerveau et tous ses prolongements sensoriels qu'on retrouve dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, et pour beaucoup aussi dans la bouche. Et comprendre son outil de travail, comprendre son outil de dégustation, c'est gagner en performance, comprendre aussi ses forces et ses faiblesses, et gagner aussi en plaisir. C'est le but du jeu de ce soir. Donc, notre ambition ce soir, c'est de vous donner les clés un peu de votre cerveau, et comme ça, d'apprendre à mieux l'appréhender, à mieux l'utiliser pour mieux déguster.
Alors manger, a priori, c'est d'abord répondre à un besoin physiologique. Hein. Mais on va voir comment on peut ressentir et réfléchir en mangeant. Et à ce moment-là, c'est plus manger pour vivre, mais c'est vivre pour manger et faire de manger une expérience nourrissante sur le plan corporel, mais également intellectuel.
Intellectuel, et j'ai même envie de rajouter... social, parce que quand on mange, on partage un repas. On partage un café, on va prendre un café ensemble, on va partager un repas. L'acte de manger, c'est un acte de partage. C'est un acte où on va communiquer. C'est un acte où on va décrire. C'est un acte où on va verbaliser. Donc, le langage fait partie intégrante de l'acte de manger. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que plus on peut identifier des choses avec des mots, et plus on va les mémoriser avec efficacité. Et mieux on va réussir à les discriminer aussi. C'est parce qu'on a des mots précis pour discriminer un citron d'une orange qu'on arrive à mieux les séparer et à mieux les ranger dans notre mémoire olfactive, notre mémoire gastronomique. Donc les mots sont importants. Trouver ces mots pour décrire une assiette, ça demande une certaine expertise. Vous en savez quelque chose. C'est difficile de trouver des mots pour décrire un vin, décrire un plat. Pourquoi c'est difficile? Il y a au moins une raison qui explique ça, c'est que déguster un plat, en fait, ça demande de recruter à peu près tous nos sens. C'est peut-être un acte qu'on fait très couramment, mais on fait pas attention au fait que déguster un plat, c'est recruter le sens de la vue pour regarder le plat, peut-être les oreilles aussi pour écouter le commentaire du chef, du sommelier, et puis on va utiliser son nez, on va utiliser aussi sa bouche, et dans sa bouche, on va utiliser notre système gustatif pour analyser les saveurs, les textures. Donc rendez-vous compte, chaque fois qu'on goûte un plat, on utilise 1, 2, 3, 4, 5 canaux sensoriels en même temps, qui vont tous arriver en même temps dans notre cerveau, qui en fait un acte beaucoup plus riche finalement que juste regarder une peinture ou écouter un morceau de musique. C'est un acte qui est extrêmement multisensoriel et qui rend l'exercice difficile finalement pour notre cerveau.
Le goût, c'est pas dans l'assiette, c'est dans la tête, c'est notre slogan, c'est une phrase qu'on vous a empruntée. C'est un peu votre devise dans les travaux scientifiques que vous menez autour de la dégustation et des perceptions sensorielles. Pour plonger dans le vif du sujet, on se tente une première expérience.
Allez, on y va.
Vous avez donc un gobelet, chers amis, et dans ce gobelet, vous avez des petites graines. Les plus gourmets d'entre vous ont peut-être identifié cette épice. Ah !
Qu'est-ce que c'est ?
Bravo ! Coriandre. La coriandre épice, c'est cette graine qui n'a pas grand-chose à voir avec l'herbe aromatique, même si évidemment c'est la même plante potagère, c'est la même famille des apiacées qu'on appelait autrefois les ombellifères. Et la coriandre, en fait, c'est un fruit. Quand la plante aromatique monte en graines, précisément, elle donne ces petits fruits qui, aromatiquement, on va le voir, n'a pas grand-chose à voir avec la coriandre qui parfois provoque une vraie phobie chez un certain nombre de personnes.
Tout à fait.
Et on va jouer avec cette petite graine que vous avez entre vos doigts.
Alors cette petite graine, aussi simple soit-elle, on va essayer d'interagir avec elle du point de vue aromatique pour comprendre un peu les richesses des chemins de notre système olfactif. Premier exercice, vous allez prendre cette petite graine entre votre pouce et votre index et vous allez essayer juste de la sentir de la pointe du nez. Voilà, vous la mettez devant votre nez, devant vos deux narines et vous essayez de sentir son parfum.
Il se passe pas grand-chose. Hein.
Exactement, il se passe pas grand-chose. Moi, je ressens juste l'odeur du savon que je portais sur mes mains, mais rien du tout pour l'instant, c'est très décevant. L'expérience très décevante. Alors, on va prolonger l'expérience. Là, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose. La suite de l'expérience se passe comme cela. Vous allez maintenant, avec l'autre main qui est libre, vous bouchez les deux narines
et parler comme ça. On parle un peu en canard, c'est normal.
Et ensuite, la graine qui est dans votre autre main, vous allez la placer dans votre bouche, tout en maintenant votre nez bouché. Et vous allez la mâcher, la réduire en poudre, jusqu'à sentir presque un peu une légère amertume en bouche.
Et on garde le nez bouché.
Et on garde bien le nez bouché. Une fois qu'elle est bien en poudre, vous allez fermer la bouche et expirer de l'air par le nez.
C'est un feu d'artifice, là.
Ah, qu'est-ce qui se passe, là? Là, on retrouve vraiment l'aspect aromatique de l'objet. Et on retrouve Qu'est-ce que vous, comment on décrirait cette odeur, ces parfums, François Gis?
Clairement une trame agrumée, des notes d'agrumes, une certaine vivacité, des notes même un peu légèrement amères aussi. Hein.
Un petit peu amères. Alors, voilà, amertume, c'est dans les saveurs et toute l'aromatique des éléments d'agrumes. Vous avez remarqué comment il y a eu 2-3 secondes avant que la perception olfactive arrive, et tout ça, c'est né depuis votre bouche. Depuis notre bouche, comment on explique ça? Comment on explique qu'on sentait rien du tout entre nos doigts et que dans la bouche, on a eu une explosion aromatique qui nous a permis de lire les caractéristiques de cette sensation? Pour ça, il faut se plonger un petit peu dans notre organe de dégustation, dans notre tête, et on va faire une petite incursion dans notre tête. Vous retrouvez le cerveau tout en haut, et vous retrouvez la cavité nasale, qui est au-dessus de la bouche, et au sommet de la cavité nasale, on se trouve la muqueuse olfactive. C'est le petit épithélium qui va permettre la détection des odeurs, qui se trouve ici entre vos deux yeux. Et quand vous sentez un arôme, une fleur par exemple de l'extérieur, les molécules vont passer de l'extérieur jusque dans la cavité nasale pour stimuler cette muqueuse olfactive. Dans le cas de la coriandre, il y avait très peu d'arômes qui étaient à la surface de cette petite graine. Il s'est passé un deuxième exercice, on a placé la graine en bouche, là on l'a pulvérisée, on l'a réduite en poudre, donc une grande surface de contact. On a réchauffé, parce que la bouche c'est quelque chose qui est très chaud. On l'a étalé sur une grande surface, tout ça a contribué à libérer des arômes qui sont passés, cette fois-ci, derrière la bouche. À partir du moment où vous avez libéré votre nez, l'air a pu repartir vers l'extérieur et est passé par votre nez et a amené des arômes par l'arrière de la bouche. On appelle cette voie la voie rétro-nasale. Donc vous voyez, chez l'homme, on a une particularité qui est assez unique dans tout le règne animal, c'est d'avoir une capacité de sentir les odeurs par deux chemins, qui convergent au même endroit, mais par le chemin orthonasal et le chemin rétronasal. Et cette particularité, elle est vraiment propre à l'homme. On serait le seul animal de l'espèce des mammifères à avoir un système rétro-olfactif aussi puissant, aussi développé.
D'où l'importance capitale au moment de déguster du nez et de l'odorat. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous dans la salle et dans nos cinémas s'en sont rendus compte. Après avoir été touché par le virus du Covid, vous avez travaillé sur ce sujet en qualité de scientifique. Et l'un des symptômes emblématiques de ce virus, c'était ce que les médecins ont appelé l'anosmie, la perte d'odorat. Qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement, physiquement? Comment on perd l'odorat et comment on le retrouve ou pas?
Alors, effectivement, la perte de goût, c'est quelque chose qui a pu nous montrer déjà que quand on dit « j'ai perdu le goût », en fait, j'ai perdu finalement la dimension olfactive, aromatique du goût. Le goût, c'est d'autres choses, c'est les saveurs, c'est les textures, c'est plein d'éléments complémentaires, mais quand on dit qu'on a perdu le goût, vous voyez, on fait un abus de langage, il faudra dire « j'ai perdu la dimension aromatique ». Alors, pour comprendre ce phénomène d'anosmie lié au Covid, il faut se replonger sur la structure de cette muqueuse olfactive qui se trouve entre vos deux yeux. C'est à ce niveau-là que le virus entre en jeu. Et dans cette muqueuse, en fait, on trouve au moins deux types de cellules. On trouve des cellules qui sont des neurones. Ces neurones vont être chargés de récepteurs et c'est eux qui vont capter la présence de molécules aromatiques dans la cavité nasale et qui vont véhiculer cette information jusque dans le cerveau. Et puis à côté de ces neurones, dont la fonction c'est de percevoir et de détecter les choses, il y a plein de cellules de soutien autour qui participent à l'équilibre et à l'intégrité de la muqueuse, qui fabriquent du mucus, mais qui aussi nourrissent ces neurones pour leur donner de l'énergie et qui contribuent à l'équilibre ionique de ces neurones-là. Et il s'avère que notre virus SARS-CoV-2, qui infecte principalement les voies aériennes supérieures, il a une tendance, non pas à attaquer nos neurones, mais justement à attaquer les cellules de soutien qui sont autour. Du coup, la muqueuse olfactive commence à perdre son intégrité, et les neurones, par dommage collatéral, commencent à ne plus fonctionner correctement. Heureusement pour nous, ces cellules de soutien se régénèrent toutes les 10 à 15 jours, et c'est classiquement ce qu'on retrouve un peu chez les malades, on retrouve un retour, une convalescence de l'odorat à peu près entre 10 et 15 jours pour 95% des gens. C'est grâce à ce phénomène de régénération qu'on retrouve des cellules de soutien et qu'on replace l'équilibre et l'intégrité du tissu. En tout cas, ça nous a montré une chose, c'est toute l'importance de l'odorat dans la perception de notre environnement et en particulier dans le contexte de l'alimentation.
Mais alors, un plat, évidemment, ne se réduit pas, ou un ingrédient d'ailleurs, à son aromatique, à son odeur. Il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu. Comment ça se passe concrètement?
Concrètement, un plat, on a dit, c'est très riche. C'est des saveurs, des textures, des odeurs, des arômes, des couleurs. On peut peut-être, pour comprendre tout ça, se plonger un petit peu à l'intérieur de la bouche pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. Dans cette image, vous avez devant vous, vous retrouvez les principaux acteurs qu'on a vus tout à l'heure. On retrouve la cavité nasale au-dessus de la bouche. Vous reconnaissez la bouche parce qu'on voit les dents de la personne. En dessous, vous avez le canal de la trachée qui nous permet de véhiculer l'air jusqu'à nos poumons. Et portez votre attention sur deux points importants qui sont figurés sur cette image. C'est un cartilage qui se trouve à l'arrière de la bouche qui s'appelle le voile du palais. En fait, notre palais qui est osseux à l'avant de la bouche, il devient cartilagineux, il peut bouger à l'arrière. Et puis vous verrez aussi au niveau de la jonction entre la trachée et l'œsophage, un petit cartilage qui se déplace, qui est un peu la gare de tri qui permet d'éviter que les aliments rentrent dans les poumons et qu'ils aillent bien au bon endroit au niveau de l'œsophage.
La gare de tri.
La gare de triage, exactement. C'est très important de déglutir parce que pour nous, c'est un acte qui nous permet de déposer un peu de particules alimentaires à l'arrière de la bouche, au niveau du pharynx. Et c'est ces particules-là qui vont participer à la rétro-nasale, justement, à la finale aromatique de l'objet. Le fait de manger, finalement, nous permet d'exprimer ensuite et de ressentir toute l'aromatique et la finale aromatique d'un plat ou d'un vin.
Est-ce que vous auriez un truc, Gabriel, une astuce à donner à nos spectateurs pour amplifier, pour en quelque sorte provoquer un effet caisse de résonance, pour amplifier ce phénomène notamment de rétro-olfaction ?
Oui, on aurait pu le faire avec cette graine de coriandre. Il y a des petites onomatopées qu'on utilise couramment, discrètement comme ça autour de nous, quand on aime bien un objet aromatique. Parfois, on dit « miam miam ». Pas seulement en français, en anglais, on utilise aussi un autre mot qui s'appelle « yummy yummy ». Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux onomatopées ? C'est ce son « M ». M qui, quand on le prononce, crée une petite dépression en bouche qui a tendance à forcer les molécules aromatiques qu'il y a dans ma bouche à passer à l'arrière et donc à amplifier ma perception aromatique. Il y a une autre technique que je vous confie, mais discrètement, parce que c'est peut-être pas très poli de faire ça à table. Parfois, à table, on a tendance à vouloir faire des petits bruits de bouche. Comme ça, c'est pas très séduisant. En France, en tout cas, c'est pas très courant de faire ça à table. C'est même très mal poli. Mais il y a d'autres pays où c'est carrément bien convenu de faire ça. Quand vous faites ce petit bruit, en fait, vous créez encore une fois une dépression qui permet d'apporter tous les arômes que vous avez en bouche et de les forcer à passer à l'arrière. Et donc, vous ferez l'expérience ce soir, demain, ce petit bruit-là, discrètement, vous allez voir que ça amplifie l'aspect aromatique d'un plat.
Et pour ceux qui ont eu la chance de voyager, par exemple, dans certains pays d'Asie, comme la Chine ou le Japon, il y a aussi la technique de l'aspirateur.
Technique d'aspirateur ?
Vous n'êtes jamais allé dans des gargotes où on mange des nouilles ?
Effectivement.
C'est très mal vu en Occident, mais ce bruit, ce raffut d'aspirateur, a vraiment un sens gustatif.
Alors, moi, je l'ai pas vu en Occident. Par contre, j'ai vu quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ce sont des dégustateurs de vin, par exemple, des sommeliers, qui vont faire ce qu'on appelle ça en français grumer. Ils vont aspirer de l'air pendant qu'ils ont le vin en bouche, et ça permet justement de décupler, d'aspirer vers l'arrière et de décupler la rétro-nasale. Donc, il y a une convergence ici culturelle.
Alors, on a vu qu'il y avait la saveur de la chouquette, par exemple. Il y a l'odeur, mais il y a aussi la texture. Muriel Barbery, souvenez-vous, évoquait, s'agissant de la chouquette, la pâte humide, la mollesse sensuelle, l'élasticité indécente. Ça veut dire qu'en mangeant, au quotidien, on peut ressentir une palette infinie de consistance, du croustillant, du gluant, du liquide, du fondant.
Alors, pourquoi on a une sensibilité si forte en bouche ? Il y a une raison à ça, c'est que, en termes de capteurs du toucher, on a une densité de capteurs au niveau de la surface de la langue qui équivaut à celle qu'on a à la surface des doigts. Et dit autrement, quand on comptabilise la quantité de capteurs du toucher qu'on a en bouche, on a à peu près un quart de nos capteurs du toucher qui sont concentrés uniquement dans cette cavité.
Un quart de nos capteurs
de l'ensemble
dans tout
du corps, effectivement. Donc c'est considérable, c'est énorme. Et donc, en bouche, on a une sensibilité très fine pour analyser la finesse des particules, si un objet est croquant, anguleux, si quelque chose est onctueux, lisse. On peut facilement avoir des métaphores qui ont du sens quand on parle d'une sauce qui serait soyeuse, onctueuse, veloutée ou un peu rêche, ça vous évoque des textures de tissu, par exemple, ça a vraiment du sens en bouche, parce qu'on a des capteurs qui sont vraiment au niveau de résolution de ces niveaux de texture de surface. Donc, utilisons des mots de texture pour décrire les aliments, c'est très important, nos capteurs sont à la hauteur de ça.
D'où l'intérêt du French Kiss.
Pourquoi pas ?
Mais c'est un peu moins de la gastronomie. En parlant de French Kiss, justement, on va faire un zoom sur un organe capital dans la dégustation, c'est la langue. Cette fameuse carte de la langue, c'est la carte d'une langue régionalisée en quelque sorte, à savoir que l'on était censé ressentir l'amer, l'acide, le salé, le sucré dans différentes régions de la langue. Le sucré plus à l'avant de la langue, l'acidité davantage sur les côtés de la langue. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte ?
Alors cette carte, elle est un peu ancienne, hein. elle est apparue à partir des années 40 à peu près. Donc très ancienne, et depuis les années 40, les sciences ont fait beaucoup de progrès. en particulier les sciences du goût, grâce au progrès de la biologie moléculaire, par exemple, et de la génétique, on a découvert l'identité des capteurs qui nous permettent de percevoir l'acide, le sucré, l'amer, le salé. Aujourd'hui, on a découvert que le sucré, c'est un capteur, le salé, c'est un capteur, l'acide a un capteur aussi, l'amertume en a 25. Ces progrès-là, on peut les mettre à profit pour comprendre et tester ce modèle-là. Est-ce que ce modèle-là est vrai? Ben, il suffit de prendre différents endroits de la langue et vérifier s'il y a plus ou moins de capteurs à gauche, à droite, en haut, en bas. Ben, figurez-vous qu'en faisant cette analyse-là, on n'a rien trouvé. L'expression des récepteurs est quasiment aléatoire à la surface de la langue. Cette carte, en fait,
elle est caduque.
Elle est complètement fausse.
Ah! Mais alors pourquoi on l'a maintenue et enseignée aussi longtemps?
Alors, quand quelque chose est faux, mais que ça se répand à toute vitesse dans une population d'apprenants, c'est peut-être qu'il y a quand même une petite vérité cachée qui crée une confusion. La confusion ici, elle existe de par quelque chose que vous avez certainement ressenti. Quand on prend un jus de citron, par exemple, un objet acide, on a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose sur les côtés. Il y a quelque chose qui tire un petit peu. En fait, la confusion, elle est là. C'est quand je prends un jus de citron, effectivement, je sens son acidité. Mais je sens aussi d'autres éléments qui sont plutôt de l'ordre du tactile, parce que je vais sentir la salivation que je vais avoir sur les côtés de la langue. Et je vais aussi sentir la tension et la contraction que je vais avoir au niveau de certaines muqueuses, en particulier sur le côté. Et donc, je ressens, quand je goûte un truc acide, je ressens en fait deux choses. Une dimension tactile, sur les côtés, et une dimension acide, qui est sur toute la surface. Et mon cerveau les mélange et pense que l'acidité se passe sur les côtés. Mais en fait, non, c'est deux dimensions sensorielles différentes.
Donc on confond effectivement la sensation... En tout cas, c'est une affaire tactile.
C'est une affaire vraiment tactile.
Lorsque les muqueuses comme ça sont titillées sur les côtés de la langue.
Exactement.
Si je sais compter, dans la carte que l'on voyait, j'ai compté quatre saveurs. Or, depuis quelques années, il y a une saveur un peu mystérieuse qui porte un nom bizarre d'origine japonaise qui s'est invitée dans le débat, dans la gastronomie et dans la science. Umami, ça y est, le mot est lâché. Umami.
Umami, qu'est-ce que ça veut dire?
Bah justement, on a toujours du mal à comprendre cette saveur. Elle est assez compliquée. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en des mots simples?
Alors, on a nos quatre saveurs, effectivement. L'umami, bah, c'est un mot mystérieux déjà, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et en plus, si on essaie de le traduire, ça donne savoureux, délicieux.
Ça ne nous avance pas beaucoup.
Je suis d'accord. Alors, en plus de ça, quand on fait goûter un composé umami à une personne d'un palais occidental, français par exemple, bah, très souvent, l'umami est décrit comme un objet qui est un peu salé et un peu sucré, alors que c'est quelque chose qui est différent. Et le but du jeu de ce soir, c'est d'essayer de vous donner des clés, justement, pour essayer de dissocier ce concept de l'umami, qui est bien différent du salé, et d'essayer de vous donner des clés pour bien les discriminer, vous donner des clés et des mots en particulier. Alors, pour se plonger là-dedans, il faut se plonger sur qu'est-ce que détecte l'umami. Mon capteur de l'umami qu'on a identifié, en fait, qu'est-ce qu'il détecte? Il détecte les acides aminés. Les acides aminés, ce sont les briques qui composent les protéines. Alors, des protéines dans notre alimentation, ça peut être les protéines du lait, ça peut être des protéines animales, ça peut être aussi des protéines végétales, par exemple, de celles du soja, par exemple. Et ces protéines, ce sont des longues chaînes d'acides aminés. Pour qu'on puisse libérer ces acides aminés, il faut qu'on puisse casser ces chaînes de protéines. Et pour les casser, il faut qu'il y ait un processus de décomposition, de dégradation, qui passe par la cuisson, par exemple, une longue cuisson de plusieurs heures, une décomposition qui peut se passer par une longue maturation de plusieurs mois, qui peut se passer par une fermentation, et qui va libérer ces petits acides aminés qui vont être disponibles pour notre bouche. Acides aminés qui sont finalement extrêmement importants parce que notre corps est fait de plein de protéines, tous vos muscles par exemple, et donc l'umami c'est une saveur qui est fondamentale parce qu'elle nous permet de reconnaître dans notre nourriture des éléments qui sont des constituants essentiels de notre corps.
Et on rappelle que l'umami c'est donc officiellement, depuis 1985, la cinquième saveur. Ça a été validé à l'occasion d'un congrès qui regroupait
symposium,
des scientifiques du monde entier. Et par ailleurs, le mot umami est même entré dans le Petit Robert en 2016. Mais alors, il est vrai que l'umami, on l'identifie un peu spontanément à des produits d'origine animale, des produits qui, comme vous le dites, sont issus d'une transformation, d'une fermentation, d'un affinage, en gros, des salaisons, des fromages. Est-ce qu'il existe aussi de l'umami d'origine végétale et qu'on peut même parfois trouver dans des légumes bruts?
Alors, effectivement, donc je l'ai dit, beaucoup de protéines vont libérer des acides aminés, c'est logique. Donc on va retrouver ça dans les protéines du lait, si elles ont subi un long processus de maturation, c'est le cas d'un vieux parmesan par exemple, d'un vieux comté, d'un vieux gruyère. Les vieilles salaisons, les salaisons qui sont très maturées, un vieux jambon aussi, un vieux ramon ibérico espagnol par exemple. On va retrouver ça dans des bouillons de poule, quand on fait cuire très longtemps son poulet. On peut faire ça avec du poisson aussi, certains crustacés. Et puis, en plus de ces éléments qui sont issus de protéines animales, on va aussi en retrouver dans des éléments végétaux. Éléments végétaux comme quoi, par exemple? La tomate. La tomate, on l'aime beaucoup. Elle a ce côté, quand elle est bien mûre, ce côté sucré. Et puis, en fin de bouche, il y a un côté un petit peu aussi, un peu salé. Ah, vous voyez qu'on est sur la piste, là, c'est de l'umami, en fait, que vous sentez. On va retrouver ça aussi sur pas mal de petits légumes de printemps. Des petits pois, des jeunes pousses. Dans certains champignons. Les shiitakes, mais vous pensez aussi à du cèpe, par exemple. Ou des petites branches de céleri. Si je devais essayer de le définir, avec des mots simples, l'umami, finalement, qu'est-ce qu'il y a de commun avec tous ces ingrédients ici? C'est une saveur qui ressemble au salé, mais qui a une dimension beaucoup plus de persistance. Ça dure très longtemps en bouche. Une fois qu'on a fini d'avaler l'ingrédient, ça dure encore plus longtemps. Il y a un côté très salivant. On a une induction de salivation en bouche qui est très confortable. Et en plus de ça, ça donne du coup un caractère un peu enveloppant, caressant. Ça occupe toute la bouche. Et ça donne vraiment une sensation de confort et vraiment de plaisir.
Personnellement, le céleri, champion de l'umami, hein, céleri branche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve dans nos bouillons, dans nos garnitures aromatiques. Les Italiens en font le sofrito. Il y a le sel au céleri aussi, qui permet de rehausser, par exemple, un jus de tomate. Ça, le céleri, c'est vraiment un champion du goût et de l'umami, pour le coup. Concrètement, pour éclairer un peu ceux qui nous écoutent, si on ouvre les placards de notre cuisine, au-delà même, évidemment, des salaisons, du poulet rôti ou de certains légumes, comment on peut expérimenter l'umami? Dans quel ingrédient du quotidien il se trouve?
Alors, si j'ouvre un placard de votre cuisine, et j'essaye de fouiner un petit peu, si vous me permettez, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais peut-être trouver des petits cubes de bouillon. Vous avez peut-être ça chez vous, des cubes qui sont préparés, qui contiennent justement pas mal de glutamate, en plus du sel, et qui vont avoir ce goût salé, mais beaucoup, qui va plus loin que le sel, qui est plus persistant, qui est vachement salivant. On a quoi, peut-être? Vous avez peut-être ces petites bouteilles très caractéristiques, des petites bouteilles de sauce magie. Vous avez peut-être acheté ça. Ça, c'est très umami. Ça fait, le glutamate fait partie même des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Peut-être vous avez une sauce soja, par exemple, aussi. Une sauce soja, ce sont des protéines végétales qui ont subi un long processus de fermentation, qui ont libéré plein d'acides aminés. Donc, voilà trois ingrédients qui me viennent à l'esprit. Et avec ça, ben, on peut peut-être faire une expérience.
Parce qu'on a compris qu'on confondait souvent le salé avec l'umami. S'il fallait, comme ça, conseiller à ceux qui nous écoutent de faire une expérience en famille pour vraiment identifier, détecter la saveur umami, on pourrait se servir de quel ingrédient?
Justement, la difficulté avec l'umami, c'est qu'on mélange avec le salé. Alors, voilà une expérience, on va comparer ces deux dimensions, salé et umami, pour bien faire la différence. À la maison, vous allez prendre deux verres d'eau d'environ 100 millilitres. Dans le premier verre de gauche, vous allez prendre trois pincées de sel. Dans l'autre verre, vous allez mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de sauce soja. Et vous allez comparer le goût salé, comment il s'exprime dans ces deux formes. Dans la forme du verre de gauche avec le sel, vous allez avoir un goût salé qui ressemble au sel de la mer.
On a l'impression de boire la tasse, quoi.
On boit la tasse, carrément. Vous allez voir une dimension salée qui va très vite au démarrage et puis qui rapidement s'arrête et qui finit par une dimension un peu de sécheresse en bouche qui est pas très agréable. Alors que l'autre, on va avoir une dimension salé, mais qui va être beaucoup plus persistante, qui va durer beaucoup plus longtemps, et qui va être un petit peu salivante, et qui, même une fois qu'on a avalé, continue à persister, et qui est très plaisante. On n'est pas du tout sur une sécheresse, au contraire, on est sur quelque chose d'enveloppant, qui donne vraiment un plaisir, et qui donne envie d'en reprendre un petit peu.
On peut aussi faire une véritable expérience gastronomique autour de l'umami, en allant, pour le coup, chez son fromager.
Ah oui, on peut prendre un produit plus franco-français, prenons par exemple le comté.
Alors ça, c'est un vrai champion de l'umami.
Là, c'est un champion de l'umami. Demain, chez le fromager, vous lui demandez, pas un, mais deux fromages. Vous lui demandez deux morceaux de comté, un morceau de comté jeune, moins de 6 mois, et un morceau de comté vieux d'au moins 24, 36, 40 mois, dans lequel vous aurez soigneusement identifié la présence de petits cristaux blancs. Petits cristaux blancs, qui ne sont pas du sel, justement. Peut-être
on
parfois.
On prend souvent ça, effectivement, pour des grains de sel. Ça n'en est pas.
Ça n'en est pas. Si vous faites l'expérience aussi à la maison, vous prenez avec une pointe de couteau, vous goûtez cette petite cristallisation blanche, croustillante. Vous verrez que c'est très décevant. En fait, ces petits cristaux blancs sont des cristaux d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et quand la tyrosine, l'acide aminé est libre et cristallise, ça, c'est un bon indicateur, justement, qu'il y a des acides aminés qui sont disponibles. Et en particulier, ça veut dire indirectement qu'il y aura du glutamate. Et donc, vous allez prendre ces deux fromages et goûter d'abord le jeune. Et essayez de mesurer un peu la temporalité de cette forme de salé en bouche. Ça va commencer doucement, et puis à la fin, au bout de 15-20 secondes, le goût de fromage et en particulier sa saveur, va s'éteindre. Quand vous prenez le comté vieux, vous allez voir que ça démarre à peu près avec la même dynamique, mais là encore, vous avez un goût qui, même une fois avalé, continue, et cette saveur saline devient enveloppante, caressante, salivante. Elle est là la différence de l'umami. Elle est dans la temporalité, dans la persistance. Il faut prendre son temps pour déguster, pour goûter l'umami. Il faut prendre son temps.
Les petits agglomérats d'acides aminés dans le comté bien affiné, la tyrosine.
Tyrosine. Alors, tyrosine, d'où ça vient? C'est une anecdote intéressante. Tyrosine, ça a une étymologie. L'étymologie de tyrosine, ça vient de tyros en grec, qui veut dire fromage. Parce que c'est justement dans ces fromages-là qu'on a identifié pour la première fois cet acide aminé.
Et ça, c'est le signe d'un comté ou d'un autre fromage, d'ailleurs, parce que ce phénomène ne se retrouve pas que dans le comté. Dans le gouda aussi, ou dans des vieux parmesans. Et ça, c'est le signe vraiment d'un fromage bien évolué, très affiné.
Tout à fait.
On a souvent pensé, ou en tout cas longtemps pensé, que l'umami était vraiment une mode, alors qu'on se rend compte, dans le monde de la gastronomie, que ça devient vraiment une quête, un graal. C'est une manière pour les chefs de doper un peu, évidemment, l'intensité, la puissance de leur plat. Voyons comment une chef emblématique de notre scène gastronomique fait ami-ami avec l'umami.
Bonjour à tous, je suis Stéphanie Lecalec, chef du restaurant La Seine, avenue Matignon à Paris. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi comment j'apprivoise l'umami à travers un très joli bouillon de parmesan rôti. C'est parti. J'ai choisi un parmesan 24 mois et sur une plaque, je vais le râper sur à peu près la totalité. L'idée, ça va être de faire rôtir gentiment ce parmesan, le faire caraméliser afin d'en obtenir le maximum de saveur. Alors j'ai choisi le parmesan parce que s'il y a bien un ingrédient très porteur d'umami, c'est le parmesan. 3-4 minutes. Sous le grill d'un four bien chaud, on va faire dorer le parmesan. Pour la garniture aromatique du bouillon, on va utiliser du céleri, là encore avec de l'umami, de l'oignon et de l'ail. Céleri branche que je vais détailler en petits dés. 2 gousses d'ail épluchées, simplement écrasées. Un oignon doux, la moitié, là aussi, 2 jolis dés. L'idée, c'est vraiment d'avoir une adéquation sur le taillage de la garniture aromatique pour l'adapter au temps de cuisson du bouillon qui va être d'environ 20-25 minutes. Tous les éléments sont prêts pour le bouillon. Alors ce qu'on va chercher lorsque l'on fait une base de bouillon comme ça et pourquoi on va aller chercher cette sapidité, cette umami, c'est avec cet échange aromatique qu'on va avoir entre l'élément liquide, la garniture aromatique et notre élément principal. Il se crée une cuisson par expansion, un espèce de phénomène d'osmose où d'un seul coup, la magie va prendre et l'umami va prendre vie dans ce bouillon qui va être la quintessence de ces ingrédients. Un filet d'huile d'olive pour démarrer la cuisson du bouillon. D'abord les oignons, puis le céleri et les gousses d'ail. Et j'y mets la garniture aromatique que je vais faire gentiment suer jusqu'à ce qu'elle devienne translucide. Je ne veux pas amener de coloration. La coloration, elle est vraiment dans le parmesan, dans son côté toasté. Donc nos oignons et le céleri sont bien translucides. J'ai gratté la plaque de parmesan rôti et j'ajoute le parmesan dans la casserole. Je vais volontairement pas assaisonner, pas de sel, puisque le parmesan est naturellement salé et qu'en plus, vous verrez, on va opter pour une petite réduction de ce bouillon après l'avoir chinoisé. Ensuite, je vais venir mouiller à hauteur d'un bouillon de poule. Puis je baisse le feu à frémissement et je vais laisser cuire ce bouillon une 20aine de minutes. Et je passe au chinois le bouillon de parmesan rôti. On va venir comme ça fouler légèrement, c'est-à-dire exprimer le maximum de jus et de saveur des éléments. Alors voilà comment j'ai capturé l'umami dans ce bouillon où finalement entre le parmesan, la garniture aromatique, nous avons eu cette cuisson par expansion, ce phénomène d'osmose entre tous les éléments. Et là, je crois qu'avec ce joli bouillon, on est prêt à réaliser une très belle recette pour rendre hommage à l'umami.
Merci à vous, Stéphanie. On a vu la réalisation de ce bouillon au parmesan, qui est déjà porteur d'umami. Vous allez pousser le bouchon encore un peu plus loin en nous réalisant ce qu'on pourrait appeler une assiette Umami XXL, ou une assiette super umami.
En tout cas, on a collectionné les aliments umami pour retrouver tout ça dans une seule assiette. C'était le challenge que vous m'avez lancé et je m'y suis attelée.
Comment s'appelle votre recette ?
Cueillette d'asperges vertes et tuée dans son jus, tisse à bâillon parmesan rôti.
Parfait, c'est parti.
C'est parti.
Racontez-nous, Stéphanie, ce que vous nous préparez.
Alors, tout démarre avec l'asperge, ingrédient umami, d'ailleurs, dans la catégorie des végétaux. Donc, je vais simplement, alors on les a choisis de belle taille, pointer ces asperges et dégager un tout petit peu, venir les baguer. C'est-à-dire qu'il y a un aspect esthétique, évidemment, et puis il y a aussi l'aspect, je vais venir simplement éplucher la queue pour ne garder que les éléments les plus tendres. La partie du bas étant quand même la plus fibreuse, j'ai gardé vraiment seulement la tête d'asperge. Et voilà. Alors après l'idée, l'asperge François Régis, qu'elle soit verte ou blanche d'ailleurs, je déteste la cuire à l'eau. Je déteste ça parce que il y a un petit peu la même chose que ce dont j'ai parlé dans le bouillon, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'osmose, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre le liquide, l'eau salée en l'espèce, et l'asperge. Donc finalement l'asperge va libérer des saveurs, perdre un petit peu aussi de vitamines dans l'eau, et puis finalement c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais plutôt opter. Alors d'abord toutes ces petites parures que j'ai faites avec la queue et les épluchures, je les ai passées à la centrifugeuse.
Ah.
J'en ai donc récolté un petit jus d'asperge.
Mm-hmm.
Parce que moi, je préfère, plutôt que de les cuire dans l'eau, je préfère donc les cuire dans leur jus. Tout va démarrer tout de même avec un filet d'huile d'olive.
On rassure nos spectateurs, ceux qui n'ont pas de centrifugeuse, on les poche légèrement,
alors,
avec un bras mixeur, et on passe au chinois.
Exactement, exactement. À peine plongé comme ça dans l'eau, et on les passe un petit coup au chinois. Alors.
Un peu d'huile d'olive dans le fond d'un sautoir.
Puissance moyenne, hein. Mm-hmm. Et je vais simplement venir les rouler, les fatiguer un tout petit peu dans cette huile d'olive.
Vous nous confirmez, Gabriel, qu'il y a bien de l'umami au sein de l'asperge ?
L'asperge, c'est clairement un des ingrédients végétaux très umami. En fait, on retrouve ça beaucoup dans toutes les jeunes pousses qui sont en croissance, elles ont besoin justement d'acides aminés pour se construire. Et donc, on va retrouver beaucoup de glutamate. Et on va retrouver aussi un autre acide aminé, qui s'appelle l'asparagine.
Ah, et ben comme par hasard.
Tiens.
Comme par hasard, l'asparagine, en fait, on l'a identifiée dans quoi ? Dans l'asperge, justement, parce qu'elle en est très riche. Et l'asperge a donné son nom à cet acide aminé.
Et elle véhicule aussi, par conséquent, évidemment, l'umami. Exactement. L'asparagine, porteuse d'umami. Vous venez de faire quoi, Stéphanie ?
Je viens de déglacer mes petites asperges, donc on essaie de ne pas avoir de coloration trop. Et voilà, simplement, à mi-hauteur, mm-hmm. le jus d'asperge, et là, on va couvrir. 3-4 minutes, pas plus.
Très bien.
Avec toujours mes petites parures d'asperges, j'ai réalisé ce qu'on appelle une petite royale d'asperges. C'est-à-dire que c'est un flan, purée d'asperges, un tout petit peu de crème, un petit peu d'œuf, et tout ça est cuit en vapeur. Je les ai enrobés ensuite dans un carpaccio d'asperges crues, tout simplement, avec un filet d'huile d'olive.
Vous les avez mandolinés finement ?
Absolument, je les ai enrubanés là-dedans. Et donc, je vais les tiédir. On ne veut pas quelque chose de très chaud, mais je vais me servir de la vapeur qui se dégage en dessous pour tiédir ça tranquillement. C'est joli, elle fonce, hein. On voit bien que la couleur de l'asperge est en train de foncer un petit peu. C'est pas mal. Alors, après, ça va être très simple. Je vous parle 2 minutes pendant que ces asperges cuisent tranquillement de ce bouillon. Ce bouillon, finalement, je l'ai traité après comme une base pour un sabayon. Donc, je suis venue l'enrichir de 3 jaunes d'œufs. Et puis, j'ai fouetté un petit peu pour être entre la crème anglaise et le début de sabayon pour lui donner du corps et de l'épaisseur. Et ensuite, tout simplement, je suis venue, je vous ai dit que je ne l'avais pas assaisonné, puisqu'il est naturellement riche en sel, mais je suis venue quand même jouer encore l'umami, je suis venue l'assaisonner de quelques gouttes de sauce soja blanche, pour lui donner beaucoup de profondeur.
C'est sauce soja blanche. Alors moi, je connais la noire.
Ouais, bah elle est beaucoup plus claire. Mm-hmm. Je vous en ferai tester. Vous voyez la différence ? Je trouve qu'elle est, elle a un peu plus d'élégance, elle est moins violente, et donc dans ce type de recette, je trouve que ça va bien parce que on a cette persistance, ça va amener cet umami tout en étant dans la délicatesse et en étant absolument pas identifiable.
Et dans une texture évidemment par définition mousseuse.
Mousseuse, soyeuse. Quelques gouttes de vinaigre de Xérès pour venir casser un tout petit peu le côté gras et un peu trop riche que pourrait avoir la recette, puisque la cuisine, c'est aussi une histoire d'équilibre. Donc j'aime bien toujours venir avec quelques gouttes d'acidité, casser comme ça, réveiller un tout petit peu l'assiette. Et ensuite, je l'ai mis dans un siphon. Pourquoi ? Pour accentuer encore ce côté mousseux. Et ça va aérer, et je pense que l'air va faire du bien aussi, enfin, vous me confirmez peut-être, Gabriel, à la saveur que l'on recherche.
Gabriel, Stéphanie Lequelec convoque, on l'a bien vu, des umami de différentes origines.
Et en fait, on s'est rendu compte, dans la découverte de l'umami, qu'il y a un phénomène très curieux, c'est le phénomène de synergie, de 1 plus 1 égale 3. En gros, quand on additionne dans un même plat et qu'on convoque des umami animaux et végétaux, on va avoir un effet de synergie, de multiplication du goût. Ça, on le comprend bien quand on réfléchit à comment on construit un bouillon. Si vous faites un bouillon de poulet à la maison, un peu de poulet ou une carcasse de poulet auquel on va rajouter, par exemple, une carotte, un poireau, un oignon. Mais cet accord végétal-animal, on le fait aussi dans d'autres cultures. Pensez au dashi japonais. Le dashi japonais, on va associer une bonite séchée, coupée en copeaux, associée à une algue kombu, qui est une algue végétale. Et là encore, à chaque fois, on fait 1 plus 1 égale 3. Et dans ce plat-là, là, on va être à 2 plus 2 égale 10, je pense.
C'est ça. Ça sent très bon. Est-ce que l'umami a une odeur?
Alors, l'umami n'a pas d'odeur. C'est une molécule qui est dissoute dans la salive, dans l'eau. Mais si on sent quelque chose, c'est certainement pas l'umami qui est pas volatile, mais plutôt les arômes associés à l'umami auxquels on pense. Si vous pensez à l'odeur du parmesan, ça va vous évoquer, associer la saveur umami, mais c'est une illusion virtuelle. L'umami n'est pas volatile.
De par l'origine du mot, on identifie évidemment souvent l'umami à la cuisine japonaise. Vous évoquez, Gabriel, le bouillon dashi. Et pourtant, on peut raisonnablement dire, sans chauvinisme excessif, que la France, Stéphanie Lekelec, est une championne de l'umami en matière de gastronomie.
Bah, en tout cas, avec la richesse de nos fromages, de nos salaisons, parce qu'on est quand même un pays de charcuterie, avec effectivement la richesse de nos cultures végétales, je pense qu'effectivement, on se situe pas trop mal.
Et la culture du bouillon et des sauces.
Du bouillon, évidemment, des sauces. Je crois effectivement pouvoir dire, et c'est d'ailleurs ça probablement qui fait de notre cuisine sa typicité, sa richesse, c'est que sans le savoir, sans avoir mis un mot en tout cas avant, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a mis un mot sur cette saveur-là, on a depuis toujours cultivé l'umami.
La cuisine française est une cuisine de la concentration.
Absolument. Et puis c'est une cuisine, effectivement, on est sur des cuisines cuisinées, on est sur des cuisines mijotées, on est moins sur des associations de saveurs que sur vraiment jouer la cuisson. Voilà, alors maintenant, ça va être le moment, je crois, du verdict. Je vais me permettre de vous servir un tout petit peu de sauce.
Wow, texture parfaite, à la fois mousseux et nappant.
Bah, là encore, hein, jeu de texture pour moi très important. Avoir des sauces qui soient là, qui aient de la persistance de goût, mais qui ne viennent pas non plus trop tapisser le palais et empêcher d'apprécier le reste. Je vous en prie, c'est à votre tour.
Eh bien, allez-y.
À vous l'honneur, François Régis.
Allez, un petit bout.
Et dans cet exercice-là, tâchons de se focaliser un peu sur les mots-clés que je vous ai donnés. L'aspect salé, mais persistant, salivant, caressant, dans lequel certainement il va y avoir des échos de texture qui vont renforcer ces caractéristiques tactiles.
C'est effectivement... enveloppant, très long en bouche.
Ça reste très longtemps en bouche. Et est-ce que vous avez un aspect justement tactile entre le sabayon et le côté umami qui revient?
En fait, il y a ce côté salé que vous évoquiez tout à l'heure, mais pas franchement salé, c'est-à-dire que c'est un peu...
Comme une nappe.
C'est ça, exactement. Avec la sauce en plus, c'est...
On va laisser nos deux convives évidemment déguster, mais on va quand même noircir un tout petit peu ce tableau parce que l'umami au Japon est quand même un peu devenu un problème de santé publique. Les industriels un peu opportunistes boostent tous les produits agroalimentaires d'umami dans l'espoir justement de provoquer une certaine addiction.
Alors addiction, peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas la consommation de masse va forcer à parfois à apporter des garanties gustatives. Et l'umami, on l'a dit, c'est une saveur qui a de la persistance, qui a du confort, qui apporte du plaisir. Et ça, si c'est une garantie de plaisir, ben, c'est facile de l'utiliser pour être sûr qu'un produit va être apprécié. C'est d'autant plus un plaisir que, on l'a dit, c'était une saveur qui est la clé de notre survie aussi, parce qu'on va trouver des acides aminés dans notre alimentation. Et puis, rappelons-nous aussi que l'umami, c'est une saveur qu'on connaît tous très bien, en fait, parce que c'est une des premières saveurs qu'on déguste quand on est enfant, quand on est bébé. Le lait maternel, dans le lait maternel, il y a du gras, du sucre et de l'umami. Il y a beaucoup de glutamate. Et donc, pour nous, le lait maternel, finalement, c'est aussi le souvenir d'un confort, d'un véhicule de survie. Et dans notre tête, c'est clairement pré-câblé ici pour que l'umami, ce soit une garantie de plaisir que parfois les industriels vont prendre en otage pour nous faire du plaisir garanti et du confort pour le cerveau.
C'est le syndrome des chips, saveur barbecue, etc. Boosté d'umami de synthèse pour attirer...
Un petit peu, c'est ça.
Le chaland et le client umami, cinquième saveur. Est-ce que cet umami peut aussi provoquer une allergie?
Alors, allergie, il y a peu de chances que l'umami soit allergène parce que, comme on l'a dit, l'umami, c'est le glutamate. Et le glutamate, on en a plein le corps. Toutes nos protéines du corps contiennent du glutamate. Même encore plus que ça, dans notre cerveau, le glutamate est le principal molécule de communication entre nos neurones. Donc on ne peut pas être allergique à son propre corps, c'est pas possible. Par contre, le problème, c'est que Stéphanie l'a bien montré, pour extraire de l'umami, il faut prendre son temps. Il faut faire des bouillons qui prennent du temps, et rares sont les restaurants qui font encore leur fond de sauce, et certains restaurants qui voudraient aller vite, des restaurants où on mange de la fast food, ont recours à des glutamates de synthèse, par exemple. Ils en mettent peut-être un peu trop, parfois c'est surdosé, parfois ce glutamate de synthèse est pas bien purifié, et donc là on tombe sur des désordres qui sont justement négatifs. Et c'est dommage.
Merci d'avoir joué le jeu. Un grand merci. Merci également à Stéphanie Lequellec. Ça donne envie de goûter, de regoûter votre cuisine au restaurant La Seine, 32 avenue Matignon. Je ne me trompe pas sur le numéro.
Absolument.
8e arrondissement de Paris.
Oui, pas très loin.
Voilà, 2 étoiles au guide Michelin.
Merci beaucoup.
J'ai toujours pensé que... Les 3 étoiles allaient tomber un jour.
Merci beaucoup.
Un grand merci, Stéphanie.
À bientôt. Merci.
5 saveurs pour l'instant. Est-ce que la liste des saveurs est définitivement close, ou est-ce que l'on peut imaginer, par la recherche et les progrès de la science, qu'on détecte une 6e, une 7e, voire plus de saveurs?
Effectivement, 5 saveurs, et les progrès de la science font qu'on découvre aussi d'autres capteurs en bouche. Pourquoi s'arrêter à 5? Peut-être qu'il y a d'autres capteurs en bouche intéressants. Dans la fin des années 2000, on a découvert par exemple un capteur pour le calcium.
Ah.
Pourquoi c'est un capteur dont on aurait pu imaginez l'identité, vous avez peut-être déjà bu des eaux riches en calcium, une Contrex par exemple. La Contrex, elle a vraiment un goût particulier. Elle a un goût un peu salé, très persistant. En fait, ce qui se passe, c'est que ce calcium qu'il y a dans la Contrex passe par ce capteur-là. Et c'est une saveur un peu particulière, mais encore une fois, un capteur qui est essentiel pour notre survie, parce que du calcium, on en a plein les os, plein les dents. C'est un constituant important de notre corps, et donc c'était logique de trouver ce capteur-là. Peut-être une autre 7e saveur. Alors là encore, on reste sur des saveurs potentielles. Il manque encore des travaux pour valider ces recherches-là. Mais grande chose importante, en France aussi, on progresse beaucoup là-dessus. Il y a un centre du goût à Dijon qui travaille et qui fait d'énormes progrès.
C'est une découverte française, un petit cocorico, ça fait du bien de temps en temps.
On peut en profiter pour souligner ça. La recherche française a participé à la description pionnière d'un capteur qui diagnostique la présence de gras, qui en fait analyse la présence d'acide gras dans notre nourriture. Et donc ça, potentiellement, ça peut être très intéressant, en particulier dans certaines maladies où il y a une surconsommation d'acide gras, par exemple.
Donc là, on comptabilise 7 saveurs, et on est d'accord pour dire que tout individu, dans notre public, nous-mêmes, à partir du moment où on n'a pas de troubles spécifiques et qu'on est en bonne santé, on est en capacité de détecter chacune de ces 7 saveurs.
Clairement, on est tous capables de sentir ces paramètres-là, et en même temps, curieusement, parfois on goûte le même plat, on goûte le même objet.
Et on n'a pas forcément le même avis.
Et on n'a pas le forme
si on prenait 10 personnes, par exemple, dans ce public, et si on les mettait devant une salade d'endives crues, tiens, c'est la saison. Moi, personnellement, j'adore l'endive. J'ai détesté quand j'étais petit. Peut-être que 6 feraient un sourire et 4 personnes feraient la grimace. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous égaux devant la perception que l'on a de ces saveurs?
Je pense que c'est vraiment une question fondamentale, parce que qu'est-ce qui fait que 2 personnes qui goûtent le même objet ont des impressions différentes? Et finalement, c'est se poser la question aussi de savoir pourquoi c'est bon et pourquoi c'est pas bon. Qu'est-ce qui définit ça? Alors, pour répondre à cette question, il y a plusieurs réponses, des éléments de réponse. Et il y a un premier élément de réponse qu'on va apporter avec une petite expérience. Petite expérience, on va avoir besoin d'une vingtaine de protagonistes pour déguster quelque chose. Alors, les personnes dont on a besoin, elles sont ici dans les 2 rangées qui sont devant.
Allez, levez la main, ceux qui ont accepté d'être cobayes.
Donc, on a normalement ici 2 rangées. À qui on va vous distribuer une petite languette de papier. François Régis, montrez-nous qu'est-ce qu'il y a dans ce petit gobelet.
Ça ressemble un tout petit peu à cette espèce de languette de papier qu'on trouve dans les parfumeries pour essayer des parfums.
Donc chacun va prendre une petite bandelette de papier comme ça. Sur cette petite bandelette de papier, on a introduit un élément gustatif. Et cet élément gustatif, on va voir si tout le monde réagit de la même manière vis-à-vis de cet élément-là. Donc je vous montre ce que vous allez faire. Vous allez prendre cette bandelette de papier, vous allez le mettre sur la langue, sur l'avant de la langue par exemple. Je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous sentez quelque chose ou pas? Et est-ce que c'est bon ou mauvais? On va essayer de décrire un peu ce truc-là. Vous êtes prêts? On le met sur la langue, à l'avant de la langue.
On a même le droit de le mâcher, d'en faire une boulette de papier mâché.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, je vois une grimace là.
Ah, ça y est, les grimaces apparaissent. Pas sur tous les visages.
Alors là, j'ai des gens chez qui ça se passe très bien. Moi, j'ai personnellement rien senti.
Eh ben moi non plus.
François Lagis, vous n'avez rien senti non plus.
Un goût de papier mâché.
Et là, madame, je l'ai vu, ça s'est pas très bien passé. C'était plutôt intense. Et c'était plutôt quoi? Très amer.
Ah,
très amer.
Elle a lâché le mot. Très amer.
Comment quelque chose peut être très amer chez cette personne et être complètement neutre, voire absent dans ma bouche? Il y a une raison à ça. Là, on a vu, j'ai essayé de voir un peu j'ai comptabilisé le nombre de grimaces, c'est pas évident. Mais c'est comme ça qu'on regarde si quelque chose est amer. La grimace que madame a faite, je vous la mime un petit peu, elle a vraiment ouvert la bouche, un peu tiré la langue, comme si on disait, berk, un petit peu. C'est vraiment une sensation de rejet. Allez, il y en a une autre grimace qui, pendant ça, m'a bien montré.
Qui, concrètement, sent vraiment très clairement une saveur amère.
Ouais, levez les bras sur le
côté. Ah, il y a quand même, voilà, regardez.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Statistiquement, c'est quasiment la moitié.
Voilà. Et les personnes qui ont rien senti, comme moi, qui sont dans mon équipe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Légère minorité.
Voilà. Alors, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas, ceux qui sentent rien comme moi, pas de problème. Ce qui explique ça, c'est une raison génétique. Cette molécule qu'il y a sur cette petite bandelette de papier, elle se fixe à un des 25 récepteurs de l'amertume. Et ce récepteur de l'amertume, il existe dans la population française sous deux versions. Une version qui fonctionne très bien et une version qui fonctionne pas très bien. Et si votre papa ou votre maman vous a donné deux versions qui fonctionnent pas bien, comme chez moi, eh ben on passe complètement à côté de cette saveur. Et ce type d'amère. Alors que les personnes qui ont deux bonnes copies, ils vont le sentir assez fort et ils vont, à cette concentration, avoir une sensation forte, parce que l'amertume, quand c'est fort, ça peut être un peu agressif et on rejette. Alors, dans la population, on a à peu près ce qu'on a vu ici, on a à peu près un tiers des personnes qui ne sentent pas du tout l'amertume. Et cette amère-là, c'est quoi? C'est un amère qu'on retrouve dans certains ingrédients, en particulier dans les ingrédients de la famille des choux.
Ah.
Le chou de Bruxelles, les épinards,
Le chou kale,
peut-être le chou-fleur dans une moindre mesure. Toutes ces sous-ingrédients, chou de Bruxelles par exemple, les personnes, j'aurais presque voulu poser la question, les personnes qui ont ressenti l'amertume très fort, ont parfois une tendance à plus rejeter le chou de Bruxelles justement parce que pour eux, leur sensibilité est augmentée. C'est trop amer pour vous.
Et ça remet en cause quand même un certain nombre de choses parce que lorsqu'un enfant par exemple fait la grimace devant son assiette de chou de Bruxelles, parfois, on a tendance un peu à le contraindre en lui disant « mange ton assiette ». Et ce que vous venez de nous dire, cette dimension innée, le fait qu'on ne soit pas tous égaux à ce composé amer, ça devrait nous rendre un peu plus indulgents dans l'éducation gustative que l'on administre à nos enfants.
Ah, ça, tout à fait. Ça, c'est une expérience qui montre justement qu'on est tous différents, tous un peu uniques, et que si notre petit garçon fait la grimace devant un chou de Bruxelles parce qu'il trouve que ça, c'est pas bon... Peut-être qu'il n'a pas encore les mots pour vous dire pourquoi c'est pas bon, il n'a pas encore les mots pour vous dire c'est trop amer, mais il y a une forme de rejet naturel. Chez les enfants, c'est encore plus exacerbé, parce que les enfants, par rapport aux adultes, ils ont un seuil de sensibilité à l'amer qui est plus bas. Donc ils détectent mieux les composés amers par rapport aux adultes. En particulier, ça s'explique parce que la nature et la composition de leur salive est un petit peu différente. Et donc, eux, ils ont une sensibilité à l'amer qui est plus forte par rapport à nous. Et donc, nous, si on impose à nos enfants, mais mange ton chou de Bruxelles, c'est pas amer, et votre enfant vous dit, mais non, c'est pas bon, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Et là, on parle de seuil de sensibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut malheureusement pas changer. C'est inscrit dans notre génome, c'est inscrit dans notre sensibilité. Si on peut pas changer ça, on peut peut-être changer un autre paramètre qui est plutôt l'interprétation de cette saveur. C'est plutôt la préférence, la familiarité.
D'autant que dans notre cerveau reptilien de chasseur-cueilleur, l'amertume, c'était l'espèce de signal d'alerte qui nous éloignait des plantes toxiques qui étaient en général amères. Et donc en fait, on a quand même une relation conflictuelle historiquement à cette saveur.
Tout à fait. On a un pré-câblage dans notre cerveau pour rejeter l'amertume chez tous les mammifères. Et ça a encore plus de sens qu'on comprendra avec l'exercice de l'enfant. Ces composés amers sont potentiellement produits par les plantes, ils sont potentiellement toxiques. Les plantes fabriquent ces composés pour se défendre contre leurs prédateurs. Et l'homme et tous les mammifères ont cette mesure de protection pour se prémunir d'un danger potentiel. Et en particulier, pourquoi c'est augmenté chez les jeunes enfants? Parce que de leur petit poids de 10 kilos par exemple, s'ils mangent un composé amer, ça peut être encore plus engageant pour leur survie, donc ils ont des seuils de sensibilité qui sont plus faibles.
Pour ceux de nos spectateurs qui voyagent en Italie, par exemple, on se rend compte qu'entre la France et l'Italie, génétiquement, globalement, même culturellement, historiquement, on est assez cousins. Et pourtant, on n'a pas la même approche de l'amertume. Ils adorent l'amertume, là où en France, on aurait plus tendance à s'en méfier. On dit souvent que la France est plus portée sur l'acidité... Et les Italiens sur l'amertume, et on le voit avec l'immense famille des cafés, de tous ces produits amers, les salades amères, les amaris, les liqueurs amères, etc. Et ça, c'est culturel, c'est acquis ou c'est inné chez les Italiens?
Ça, c'est vraiment un travail de la culture, de l'éducation. La mer, c'est vraiment, pour rester sur la mer, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se construit. Il faut désapprendre le rejet automatique de l'amertume, ce burk inné que vous avez précalé dans votre cerveau. Il faut le déconstruire pour réapprendre la valeur de l'amertume, qui est une saveur qui participe beaucoup à la persistance et à la fin de bouche. Un petit peu comme l'umami, c'est eux qui vont muscler les saveurs de fin de bouche. Et alors, chez l'enfant, dans cette éducation, il faut l'aider à désapprendre ce réflexe inné. Et comment on peut faire ? Il faut l'aider déjà à gagner en confiance, en familiarité avec ces composés-là. Je prends l'exemple d'un ingrédient que les enfants adorent et qui est un peu amer, c'est le chocolat. Ce chocolat, il existe en plusieurs versions, 30%, 50%, 70%, 80%. Essayez avec l'enfant de le familiariser à décrire cette saveur-là.
Et de faire grimper le taux de cacao.
Exactement, pour pouvoir l'aider aussi à comprendre qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, et essayer de le challenger un petit peu pour pas qu'il reste juste dans cette zone de confort dès que c'est amer, c'est mauvais. Non, ça peut avoir des qualités très intéressantes. Ici, vous avez une matrice des interactions qu'il y a en bouche et qui peuvent nous aider à construire et à équilibrer les saveurs, diminuer le sucré ou diminuer l'acide. On peut mettre un peu de sucre pour diminuer l'acide, ça vous parle tout ça.
Et il y a vraiment des figures imposées. Hein.
Complètement.
Salé, sucré, ça donne le sucré salé. Amer, sucré, c'est le doux amer.
Doux amer.
Et puis acide et sucré, c'est le sweet and sour des anglo-saxons, l'agrodolce des Italiens et l'aigre doux, évidemment, de nous autres Français. Vous avez une grande passion dans la vie, c'est le vin. Et au cœur, d'hiver, il y a précisément ces combinaisons de saveurs et cette grande complexité qui, en général, génère de très fortes émotions. Et pour bien comprendre la notion d'équilibre dans le vin, puisqu'en général, un bon vin égale un vin équilibré, je vous propose une petite leçon de dégustation avec celui que vous entendez peut-être sur France Inter. C'est notre ami Jérôme Gagnez. Merci de l'accueillir.
Bonjour à tous.
Approchez.
François Régis, Gabriel.
On parlait combinaison de saveurs.
C'est précisément pour ça que je suis venu, dis donc. On va goûter deux vins que je vais vous faire goûter. Avant, je vais donner quelques petits trucs de dégustation. Et puis, ensuite, on va pouvoir parler de ce vin. Alors, la dégustation du vin, elle se fait traditionnellement en trois phases. Les sommeliers ont tous appris ça. On va commencer à goûter ensemble. Alors, évidemment, on tient son verre par le pied. Ça permet d'admirer la robe du vin, de ne pas réchauffer le vin avec la chaleur de notre corps. Ensuite, de quoi ? Une fois qu'on l'a bien admiré, on a très envie de le sentir. Alors, on met son nez dedans. On sent plein de choses formidables. Et puis, on arrive... Alors, je vais très vite, évidemment. On arrive à ce qui nous intéresse le plus ce soir. C'est la partie gustative. Ce sont les saveurs de ce vin. C'est ce que vont nous révéler ces deux vins comparés l'un à l'autre, dégustés l'un juste après l'autre. Alors, François Régis et Gabriel, allez-y, goûtez. On va le goûter tous ensemble. On a goûté ce premier vin.
C'est bon.
Je suis ravi que ça vous plaise. Je me ferai pas virer ce soir. Et donc, en fait, maintenant, je vais vous servir l'autre vin, le deuxième vin. Et je voudrais simplement que vous goûtiez ce second vin et que vous me disiez si vous voyez une différence et si oui, laquelle.
Je suis sûr qu'il y a un piège. On peut raisonnablement dire qu'on a affaire à deux vins appartenant à la grande famille des liquoreux ou des moelleux.
Tout à fait.
Les deux ont quand même un profil assez sucré. Après, je trouve qu'il y en a un qui est plus sucré que l'autre.
Il y en a un qui est plus sucré que l'autre.
Le deuxième.
Il y a clairement plus de sucre.
Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Il y a en fait, dans ces deux vins, ils ont exactement la même proportion de sucre résiduel. Ils ont 85 grammes de sucre résiduel par litre.
Sucre résiduel, s'il vous plaît.
Sucre résiduel, ce sont les sucres naturels du raisin, présents dans le jus de raisin, qui n'ont pas été transformés en alcool par la fermentation. C'est ce qui donne naissance aux vins moelleux et liquoreux. La plupart des vins liquoreux, moelleux, qui sont produits de cette façon-là. Donc ça veut dire que on a exactement la même teneur en sucre résiduel dans les vins, 85 grammes dans chacun des deux vins, et pourtant on a une impression de sucrosité plus marquée dans le second vin. Alors il y a bien une raison à cela, ça tient précisément à l'équilibre du vin, parce que vous dire ce vin à 50 grammes de sucre résiduel, ce vin à 80 grammes de sucre résiduel ne rime strictement à rien. Si on va avoir une petite idée de l'expérience gustative qu'on aura en goûtant ce vin, il faut que je vous donne l'autre élément, sans quoi le premier chiffre ne veut rien dire. L'autre élément, c'est l'acidité totale. C'est l'ensemble des acidités exprimées en grammes par litre. C'est un tout petit peu technique, mais vous comprenez bien que cette acidité-là, comme d'ailleurs vous en avez déjà parlé, cette acidité-là, elle vient fluidifier le vin, elle vient rafraîchir la sensation du sucre. Et donc, il est très important de savoir combien on a d'acidité. Alors, c'est très simple. Nous avons ici 85 grammes et 6 grammes d'acidité totale. Nous avons ici 85 grammes et 4,9 d'acidité totale. Donc, on voit bien que dans le premier vin, qui paraît moins sucré, il y a plus d'acidité. Dans le deuxième vin, il y en a un petit peu moins.
Un grand merci, Jérôme Gagnaise.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, Jérôme.
Je repars avec mes verres.
Qu'est-ce qui fait qu'un vin peut provoquer comme ça des émotions? On en revient un peu à la chouquette du début de cette soirée. Un objet a priori palpable comme ça, qui déclenche une émotion mémorable. Quel est le rôle du cerveau dans cette histoire, Gabriel?
Le cerveau, c'est le point de convergence. C'est un peu le carrefour des éléments aromatiques qui rentrent par le nez, par la bouche, des éléments de saveur, le sucre, l'acidité, qui s'équilibrent en plus. Et dans cet équilibre, on trouve le bonheur un petit peu. Et puis des textures, on n'en a pas parlé, mais ces vins-là avaient aussi une onctuosité, une viscosité qui est très agréable en bouche. Et tout ça converge dans le cerveau, et tout ça va construire ma mémoire des deux vins que j'ai goûtés là. Ma mémoire de ces deux vins va connecter finalement l'aspect aromatique, l'aspect gustatif, l'aspect visuel, l'aspect tactile. Et plus je connecte ma mémoire à différentes dimensions, et mieux je vais m'en rappeler.
Donc on salive, non pas en mangeant un citron, mais devant une illusion de citron, ça veut dire qu'en quelque sorte, nos sens peuvent être trompés.
Alors là, on avait une superbe démonstration de voir comment le sucre, qui était identique dans ces deux vins, avait un ressenti différent parce que l'acidité contrebalançait ça. Il y a d'autres exemples d'éléments qui peuvent tromper nos sens au sens vraiment strict. Par exemple, l'homme a trouvé dans la nature des éléments qui donnent l'illusion du chaud ou l'illusion du froid. Il a trouvé dans la nature, par exemple, du piment. Le piment, quand on le met en bouche, c'est chaud, mais c'est pas chaud. Ça brûle, mais c'est pas chaud. Le menthol qu'on trouve dans la menthe, qu'on trouve dans un sirop de menthe, qu'on trouve dans un dentifrice, c'est froid en bouche, mais c'est pas froid. Et ça, c'est l'illusion du froid et du chaud, parce que les molécules qui sont présentes dans le piment, la capsaïcine, ou dans la menthe, le menthol, activent artificiellement ces récepteurs et nous donnent l'illusion alimentaire du chaud ou du froid.
Donc c'est pas du tout, encore une fois, le piment ou le menthol, une affaire de température. C'est vraiment une illusion.
C'est vraiment une vraie illusion.
Et nos sens se sont trompés.
Alors on peut même aller un peu plus loin et vous inviter à une nouvelle expérience avec un objet qui va créer une nouvelle illusion encore plus mémorable.
N'en dites pas plus. Si deux candidats ou deux cobayes veulent bien, monsieur, en noir, au deuxième rang, et madame, on va tenter ensemble, en rejoignant la table de dégustation, une expérience assez incroyable. Prenez place.
Comment vous prénommez?
Enzo.
Enchanté Enzo, bienvenue. Ne vous inquiétez pas, rien de dangereux. Bonsoir, comment vous appelez?
Lucie.
Les micros sont à vos dispositions. Alors vous avez deux petites assiettes avec une coupelle. Donc je vous invite à vous saisir d'une demi-rondelle de citron et à la croquer généreusement.
À pleines dents.
Ah, forcément, il y en a qui souffrent pour vous dans le public.
Regardez-moi cette belle grimace là, magnifique.
Bon, en quelques mots, on a déjà compris les faits, mais qu'est-ce que vous ressentez?
Ça tire un peu en bouche.
Ça tire, c'est bien dit, hein. Contractation des muqueuses, notamment sur les parties latérales de la langue.
Après, moi j'adore l'acidité, donc j'avoue que j'ai un peu pris de plaisir quand même, parce que ça me rappelle beaucoup de saveurs que j'apprécie. Donc.
Très bien. Alors, cette saveur de citron, on va la transformer et peut-être la déformer.
Là, vous avez ce qui s'apparente à une petite baie de couleur rouge-rose. Vous allez en prendre un petit morceau, vous allez bien la mâcher, la croquer, prenez votre temps, vous la mastiquez comme un chewing-gum, vous finissez par l'avaler.
Ça a quel goût exactement? Vous sentez quelque chose particulier?
Il y a de l'acidité, il y a du sucré, c'est assez rond en bouche. D'accord. C'est moins agressif que le citron et ça amène à moins saliver un petit moment.
Okay.
Et rassurez-vous, c'est totalement naturel. C'est un fruit qui existe dans la nature.
Alors maintenant, on pousse l'expérience un peu plus loin. Eh ben, on va reprendre une tranche de citron maintenant. Vous êtes prêts?
Ah.
Voilà, il faut nous aider là. Qu'est-ce qui se passe?
C'est un peu plus acide.
Ah!
C'est presque amer, ça devient presque.
Ça se déforme, et puis petit à petit, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un truc à la fin qui vient d'arriver. Ah. Un peu plus goût sucré, qui est ici. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le goût sucré que je vous disais tout à l'heure de la baie, Et c'est vraiment, c'est long en bouche, ça arrive dans le palais. Et là, vous pouvez imaginer que ça descend dans la gorge un petit peu. Et ça adoucit, voilà, ma tête, elle a changé, vous voyez bien.
On va pas vous torturer beaucoup, mais si vous regoutez encore un peu de citron, normalement, vous aurez affaire à un autre fruit.
J'ai du mal à identifier un autre fruit, mais...
Quelque chose de plus sucré ou...
Plus sucré, qui ferait peut-être un peu plus penser à de la clémentine ou de l'orange. Quelque chose comme ça.
Parce qu'en fait, j'ai entre les doigts un petit fruit originaire d'Afrique de l'Ouest qui répond au nom latin de Sinsepalum dulcificum. Ça, ça donne une petite indication sur l'effet que ça pourrait donner.
Dulcificum, oui.
Et en l'occurrence, ce petit fruit, il est cultivé au Togo, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il est séché par sublimation. Donc c'est vraiment une espèce de lyophilisation, de déshydratation. Il est commercialisé par la start-up française qui est d'ailleurs leader en Europe, qui s'appelle Baybox, elle est basée à Lyon. Et cette baie contient une molécule miracle, puisque d'ailleurs le surnom de ce fruit, c'est le fruit miracle. Gabriel, que s'est-il passé?
Et cette molécule miracle, elle porte le doux nom de miraculine. Alors cette miraculine, qui est capable de transformer... un citron en clémentine,
quand
si je résume...
Quand tout se passe bien.
Quand tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans cette miraculine, il y a un composé qui est capable de rentrer dans le récepteur du sucré et qui va activer ce récepteur du sucré seulement quand on prend un objet acide. Donc à chaque fois que je prends un objet acide, j'ai l'acide qui arrive, mais en même temps j'active le sucré et j'ai du sucre qui arrive. Et ça, c'est extrêmement confusant pour le cerveau. Je fais rentrer de l'acide et j'ai du sucré qui vient. Et c'est très surprenant, on dirait un coup de magie. Et c'est pour ça qu'on lui a donné ce doux nom de miraculine.
Donc il ne s'agit pas du tout de sucre, même en termes caloriques. C'est une illusion sucrée qui s'installe dans notre corps.
Alors j'ai envie de dire même c'est une double illusion parce que non seulement il y a l'idée que ça prend existence seulement quand il y a de l'acide. Quand il n'y a pas de l'acide, on ne le sent pas. Et illusion du sucré parce que le sucre... C'est un élément qui est important pour notre corps. Il faut se rendre compte que le sucre, c'est le carburant de nos cellules. Partout dans notre corps, dans notre sang, le niveau de sucre, le niveau de glucose est bien régulé. Quand on prend un morceau de sucre, on mange à la fois un objet sensoriel qui stimule le goût du sucré, mais on mange aussi quelque chose qui est important pour notre corps du point de vue énergétique et métabolique. Dans cette miraculine, ici, en fait, on a supprimé l'aspect énergétique et on a gardé que la sensation, l'illusion du sucré. C'est pour ça que cette molécule-là, on pourrait la classer un peu dans la famille des édulcorants. Qui sont ces composés qui donnent l'illusion du sucré, mais qui, en point de vue énergétique, n'ont pas aucune valeur.
Alors, au-delà de l'activité récréative, on a joué avec la miraculine, on se rend bien compte que cette petite baie a vraiment de l'avenir. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes entreprises qui se positionnent sur ce créneau, parce que cette petite miraculine peut rendre des services à ceux qui ont besoin de baisser leur consommation de sucre, au premier rang desquels les diabétiques, mais également les personnes atteintes d'obésité.
Tout à fait. Alors, quand on a... des problèmes avec le sucre, effectivement, les édulcorants, et celui-là peut en faire partie, peut aider à diminuer la consommation de sucre.
Un grand merci, chers spectateurs, d'avoir souffert pour nous. Merci. Je voudrais vous citer en guise de conclusion une phrase qui résonne en moi et que m'a transmise il y a quelques semaines, complètement par hasard, le chef Yannick Aleno. Triplement étoilé, il s'en est servi comme une espèce de moteur dans son parcours de chef. C'est une citation du philosophe des Lumières, Denis Diderot. Qu'est-ce donc que le goût? Une facilité acquise par des expériences réitérées à saisir le vrai ou le bon avec la circonstance qui le rend beau et d'en être promptement et vivement touché. Preuve que le goût, finalement, au-delà de cette faculté innée, c'est aussi l'apprentissage de toute une vie. J'espère que vous en avez appris sur les saveurs et surtout ces savoirs que détient notre ami Gabriel Lépouzet. Et ça, c'est quand même une invitation à rejoindre tous ensemble l'aventure du goût. Un grand merci. Merci Gabriel. Voilà, ainsi s'achève cette conférence sur les secrets du goût que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Rendez-vous pour la prochaine conférence France Inter du cycle « De l'assiette à la planète » le 29 novembre prochain avec Mathieu Vidard. Merci à Frédéric Milano qui a réalisé ce podcast et à bientôt.
En partenariat avec La Massif. La Massif, c'est vous.